cas, je vous propose de prier sans plus tarder, puis nous allons ouvrir la parole de Dieu. Merci encore, mon Dieu, pour ce jour particulier. Nous célébrons encore, mon Dieu, la venue de ton esprit que tu nous as donné. Jésus, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné encore, mon Dieu, ton esprit, toi qui es Dieu. Mon Dieu, tu viens habiter dans nos cœurs. Tes tablettes de loi que tu as données, mon Dieu, tu es venu les graver dans nos cœurs. Et viens nous aider encore, mon Dieu, à pouvoir te suivre et à compter surtout sur ton aide, Jésus, l'aide de ton Saint-Esprit qui demeure au plus profond de nos cœurs. Ce Saint-Esprit, elle, qui est là pour nous encourager, nous édifier, mais aussi nous reprendre. Que nous puissions, Jésus, viens nous aider. Avoir ce cœur sensible, mon Dieu, à ta voix, à l'écoute de ta voix, savoir être dans l'humilité pour que ce Saint-Esprit puisse nous reprendre quand il y a besoin, Jésus. Amen. Amen. Peut-être j'avais juste une question, Nathan, c'est dur, tu étais courageux de parler, c'est compliqué de parler devant, mais la thématique de Écho, c'était quoi? C'était l'appel, je crois, non? On voit que tu as bien suivi. Ouais, écoute, on va prier pour toi en tout cas, que la parole que tu as entendue elle puisse produire un effet, et c'est le plus important au-delà du foot et du sport qui est très bien, hein. Mais voilà, il me semble que la thématique c'était l'appel de Dieu, une bonne thématique puisque voilà, quelque part Dieu est capable de se révéler dans le cœur de chacun. Quand on parle de l'appel, c'est pas un appel forcément ministère, mais l'appel quelque part que Dieu place sur la vie de tout homme, de toute femme, et y compris des plus jeunes. Et merci Seigneur puisqu'il appelle aussi des très jeunes. En ce dimanche de Pentecôte, mes frères et sœurs, voilà, nous célébrons ici un événement important dans l'histoire chrétienne, qui est du coup le Saint-Esprit qui descend sur terre pour donner naissance à l'Église. Jésus a donné sa vie sur la croix, il est ressuscité, mais quelque part il ne nous appelle pas à être des individus tout seuls. Il nous donne son esprit qui nous unit de manière forte, malgré nos différences, malgré nos cultures différentes, malgré nos milieux sociaux différents. Le Saint-Esprit, le même esprit, vient unir les croyants de tout âge et de tout siècle. Avec l'Église, avec un grand E, mais l'Église un grand E qui se vit avec l'Église, avec un petit E, l'Église locale. Alors, cet anniversaire, c'est l'anniversaire de chacun de nous ce matin, mais pas de tout le monde, il faut quand même bien le préciser, puisque l'Église, c'est qui? Alors, c'est nous. Est-ce que si je prends quelqu'un dans la rue et qu'il dit « je viens à l'Église », il fait partie de l'Église? Non. L'Église, c'est ceux qui ont accepté le Christ dans leur vie et qui ont confessé de vouloir le suivre. C'est ça. Et c'est l'ensemble de ces personnes-là, quelque part, que Dieu seul connaît, qui compose quelque part l'Église et que Dieu ici a donné naissance. J'aimerais vous raconter une histoire vraie, qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un petit village au sud de la France. C'est un jeune soldat américain qui est tué au combat. Voilà, c'est la guerre. Et ses camarades, du coup, de combat sont bouleversés. Ils cherchent un endroit pour l'enterrer. Et ils vont trouver une petite église catholique de campagne, entourée d'un cimetière, comme c'est souvent le cas. Et ils vont voir le prêtre et lui demandent, du coup, s'ils peuvent enterrer leur ami dans le cimetière de l'église. Et le vieux prêtre, qui est un homme qui est bon, qui aime Dieu, mais très attaché aux règles de son institution, lui demande du coup au soldat américain, est-ce que votre ami était catholique? Et voilà, très peu de catholiques américains, il était protestant. Est-ce qu'ils vont répondre? Il était protestant. Du coup, le prêtre, le cœur serré, va leur dire, je suis désolé, mais les règles de notre église m'interdisent d'enterrer un non-catholique en terre bénie à l'intérieur de la clôture du cimetière. Mais vous pouvez l'enterrer juste là, à l'extérieur, contre la barrière en bois. Imaginez la situation complexe, mais cet homme-là, quelque part, il va suivre ce que son institution dit. Et du coup, les soldats tristes vont enterrer leur ami derrière la clôture du cimetière, la clôture en bois, puis ils vont repartir au combat. Après la guerre, quelques soldats rescapés vont revenir se recueillir sur la tombe de leurs camarades. Et quand ils arrivent près de l'église, à l'endroit exact où leur ami était enterré, à l'extérieur du cimetière, la tombe n'est plus là. Ils comprennent pas et du coup, ils vont être en colère. C'est des soldats. Il y a la rage qui commence à monter et eux, ils pensent qu'elle a été profanée. Et du coup, le vieux prêtre, il arrive, il sort, il sourit et les larmes aux yeux, il va leur dire « Après votre départ, mon cœur n'a pas trouvé le repos. Je m'en suis voulu d'avoir laissé votre ami à l'extérieur à cause de nos règles. Alors, durant la nuit, les deux nuits qui ont précédé, Je me suis levé, j'ai pris mes outils et je suis allé déplacer la barrière en bois pour que votre ami soit désormais à l'intérieur. Mes frères et sœurs, cette histoire résume toute la tension de notre vie de foi. Parfois, par amour pour nos règles, pour nos doctrines, nous construisons des barrières. Et parfois, le Saint-Esprit passe derrière nous pour déplacer ces barrières. Et au jour d'aujourd'hui, on peut vivre les mêmes craintes, les mêmes peurs dans notre Église. Et on peut se dire, la doctrine fondamentale des catholiques diverge de la nôtre. Ils prient Marie, ils prient les saints, ils prient les morts, ils croient au purgatoire, au salut par les œuvres. C'est du compromis. Et si nous disons ça, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Non, c'est juste. Rassurez-moi quand même. Hein. Non, c'est juste. C'est jugeant, mais c'est juste. Jugeant, c'est si on juge la personne. Là, on parle de l'institution. C'est juste ce que l'on dit. Et du coup, dire que l'institution catholique ici a des dérives, c'est vrai. Et l'institution catholique enseigne des doctrines qui s'éloignent de la Bible. On ne va pas dire non plus que du coup, c'est complètement hors propos, mais il y a quand même beaucoup de sujets. Ou du coup, des vérités fondamentales, même de la foi, où nous pouvons être en désaccord, puisque du coup, éloignés de la réalité et de la parole de Dieu. Alors que faire? Est-ce qu'il faut s'enfermer et refuser tout contact? Et ce matin, mes frères et sœurs, c'est la naissance de l'Église. On a parlé il y a 2 semaines de la mission. L'Église, quelque part, Dieu l'a créée pour l'envoyer dans la mission, parler du salut. Et quelque part, il y a pas, je pense que c'est un bon jour, quelque part, aussi, de parler de ce que c'est l'Église et de comment vivre ces tensions qui sont là dans le monde chrétien et où, quelquefois, nous sommes dans un certain jugement ou peut-être une certaine crainte, une certaine peur. Et ce matin, je vous propose du coup de lire un texte où l'apôtre Pierre, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il va être confronté un peu au même problème, à la même problématique. C'est dans Actes chapitre 10, où Pierre va entrer chez Corneille. Je ne sais pas si vous voyez cette histoire. Corneille, c'est un païen, et le Saint-Esprit va descendre sur lui. Le problème, c'est que pour les juifs croyants, les chrétiens juifs de Jérusalem, cela bouleverse toute leur catégorie religieuse. Et en Actes 11, ça va être le texte qu'on va lire ce matin, Pierre doit rendre des comptes à son église de Jérusalem. Donc je lis, Actes chapitre 11, verset 1, je vous propose de prendre vos Bibles, il n'y aura pas de PowerPoint ce matin, on va lire du coup chapitre 11, des versets 1 au verset 18. Actes chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 18. Les apôtres et les frères qui habitaient la Judée apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu. Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. Comment, lui dirent-ils, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux? Juste après, Pierre il va répondre et expliquer point par point ce que Dieu a fait. Il raconte d'abord comment il était en prière à Jaffa, qu'il a eu une vision, et dans cette vision, il va avoir une grande nappe qui va descendre du ciel avec des animaux. Ces animaux sont impurs. En tant que juif, Pierre ne peut pas les manger. Et il va entendre cette parole du Seigneur, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre va refuser au début, par respect jusqu'au pour la loi de Moïse, et en disant qu'il n'a jamais mangé quelque chose d'impur. Mais Dieu va lui répondre une deuxième fois avec cette phrase central, ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas comme impur. Et cette vision va se répéter 3 fois. Et au même moment, du coup, il y a des hommes qui vont arriver, c'est la maison de Corneille, et l'Esprit va dire à Pierre d'aller vers eux sans hésiter. Pierre, il va obéir. Il va aller vers Corneille, c'est le Saint-Esprit là qui dicte la démarche. Il va chez Corneille, et là, quelque chose d'incroyable se passe, le Saint-Esprit descend sur ces non-juifs. Dieu bouscule la barrière. Alors que les Juifs, quelque part, étaient chrétiens, croient que Dieu aime le monde entier, comme nous ce matin, dans leur tête, il y avait des barrières. C'est le monde entier s'arrête aux chrétiens juifs. Au-delà de nos murs, il n'y a pas de salut. Et bien souvent, nous faisons ça. Nous croyons que les chrétiens, c'est que 27 quais Carnot à Saumur. En dehors de ces murs, il n'y a pas de salut. Ce même raisonnement, les catholiques vont aussi l'avoir, hein, certains. Et quelque part ici, l'Esprit de Dieu va descendre et va bouleverser cela. Au verset 15, « J'ai donc commencé à leur parler, c'est Pierre qui va parler, quand l'Esprit Saint est descendu sur eux de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. Aussitôt, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur, « Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, quand nous avons cru, qui étais-je moi pour pouvoir m'opposer à Dieu ? Et ce récit les apaisa et ils louèrent Dieu et dirent, « Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. » Amen. Premier point, quand nos règles se heurtent à la souveraineté de l'Esprit. Pierre vient de vivre un réveil incroyable chez un centurion romain nommé Corneille. Corneille, c'est un soldat romain. Et des païens, quelque part, vont croire en Jésus. Mais quand Pierre va rentrer à la maison mère à Jérusalem, les chrétiens, du coup, ils lui présentent un accueil qui est glacial. Ils vont lui dire, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Il faut se mettre à leur place, à la place de ces chrétiens. Ces chrétiens de Jérusalem, ils sont pas méchants. C'est juste qu'ils ne connaissent pas. Ils ont leur manière de penser. Ce sont des personnes qui aiment la Bible, ils aiment Dieu, mais ils veulent protéger la saine doctrine. Selon la loi de Moïse, se mélanger avec des païens impurs, c'était trahir Dieu. On ne peut pas se mélanger avec des gens qui ne partagent pas la même chose. On peut se mélanger avec des juifs qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils connaissent un minimum, mais des païens, comment c'est possible ? Ils ont peur du compromis, ils veulent être un peu les gardiens du temple. Et ils se disent, quelque part sans doute, si on commence à manger avec des gens qui ne suivent pas nos règles doctrinales, où est-ce qu'on va aller ? C'est la porte ouverte à tout. Et j'aime bien cette phrase de Dieu à Pierre, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Alors bien sûr, la situation dans Acte 11, dans ce texte, n'est pas exactement la même qu'aujourd'hui. Dans ce texte, le problème concerne l'accueil des païens dans le peuple de Dieu. Et non des divergences doctrinales entre confessions, mais il y a un principe ici. Et ce principe qui nous intéresse, c'est le principe spirituel. Les croyants de Jérusalem avaient construit des frontières religieuses. Si fortes qu'ils avaient du mal à reconnaître l'œuvre de Dieu chez des personnes extérieures à leur cercle. Ce qui fait que c'est intéressant leur réaction. Il y a un païen qui a donné sa vie à Dieu. Leur première réaction, c'est de dire à Pierre, tu vas manger chez un païen. Au lieu de se réjouir, ils vont se réjouir après, mais du coup, cette conversion va les choquer. Pour eux, ce n'est pas possible qu'il y ait un autre chrétien qui sorte quelque part de leur cadre. Alors attention, cela ne veut pas dire du coup que toutes les doctrines se valent ou qu'il faut abandonner le discernement, mais cela veut dire que nous devons rester humbles devant la souveraineté du Saint-Esprit. Un exemple que peut-être que vous connaissez, c'est le prophète Élie. Le prophète Élie, je ne sais pas si vous vous rappelez dans son histoire, il va regarder le peuple d'Israël tomber dans l'idolâtrie et il va être découragé. Tellement découragé qu'il va s'enfermer dans une grotte et il va dire à Dieu, dans 1 Roi chapitre 19, « Je suis resté moi seul. » Il crie à Dieu en disant « Moi je suis tout seul, je suis le seul chrétien. » Et Élie pensait qu'il était le seul pur. Mais que lui répond Dieu ? Je me suis réservé en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Élie ne les a pas vus. Pourquoi il ne les a pas vus ? Parce qu'il n'était pas dans la grotte. Il n'avait pas son étiquette, sans doute, ils n'étaient pas des grands prophètes, mais ils aimaient Dieu. Et Dieu, quelque part, il y a seulement lui qui connaît les cœurs de chacun. Et nous pouvons des fois nous croire que, quelque part, le chrétien, c'est celui qui me ressemble, ça peut être vrai. Mais pas forcément. Une fois, nous souffrons un peu du même syndrome que le prophète Élie, croire que Dieu ne travaille que dans notre camp. Allez, je vais être un peu taquin ce matin, que dans notre camp évangélique. Pierre va reprendre ceci au verset 15. « Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, tout comme sur nous au commencement. » Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le Saint-Esprit n'a pas attendu que Corneille passe un examen de doctrine. Corneille ne connaissait pas toute l'écriture, loin de là. Il n'était même pas circoncis. Est-ce que vous pensez que Corneille il suivait fidèlement ce que Jésus ou Dieu pouvait dire ? Non. Et est-ce qu'il y a besoin, et c'est la question que je vous pose ce matin, si une personne confesse Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, mais qu'elle a des erreurs de compréhension de la parole importantes dans sa compréhension, des erreurs de doctrine importantes, est-ce que cela signifie automatiquement qu'elle n'est pas sauvée ? Ouais. Et l'exemple le plus flagrant, c'est le brigand sur la croix. Le brigand sur la croix, je suis sûr, au niveau théologie, je pense qu'il connaissait rien, ce gars-là. Hein. À part être rayé, qu'est-ce qu'il connaissait de Dieu? Il va juste proclamer qu'il veut suivre le Seigneur. Parce que, du coup, c'est la foi seule qui suffit. Et mes frères et sœurs, ce matin, Dieu nous appelle à l'humilité. Parce que quand quand nous allons rejoindre notre Seigneur et Sauveur, aux portes du paradis, il n'y a pas un examen de doctrine. Parce qu'on le ratera tous. Parce que autant que nous sommes, et moi y compris, hein, on ne peut pas saisir complètement, comprendre pleinement, parfaitement Dieu. Aujourd'hui, on pense connaître Dieu, et en fait, on évolue, on avance. Un exemple très personnel. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2005. Et j'ai donné ma vie de manière très sincère, très honnête. Et j'ai mis 4 ans à comprendre du coup, que je vivais une vie très rigide, de légaliste. C'est-à-dire que pour moi, le salut, c'était qu'il fallait que je fasse des bonnes actions. Et ça a duré longtemps, ça. Pourtant, j'étais sincère dans ma démarche. Est-ce que ça veut dire que pendant ces 4-5 ans, j'étais perdu? Pas du tout. Parce que Dieu, ici, voit le cœur. Et c'est ce que, ici, des fois, c'est le danger qui nous guette, puisque du coup, on va juger l'autre en fonction des points de doctrine, pour le classer finalement en disant est-ce que lui il est chrétien ou pas. Ce qui sauve, ce n'est pas d'avoir une théologie parfaite, une connaissance de Dieu parfaite. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ reçu par la foi. Alors il faut être très clair. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même être très clair. Ça ne veut pas dire qu'on peut croire n'importe quoi. La Bible montre ici un cœur de doctrine qui est non négociable. Il y a 3 points. Ce matin, qui sont non dissociables, qui sont non négociables, c'est la Trinité, la personne de Dieu, Dieu en 3 personnes, la divinité de Jésus, sa mort et sa résurrection, et le fait qu'il est le seul chemin vers Dieu. Celui qui nie ces 4 points, il peut pas dire « j'ai la foi, je suis le Seigneur », c'est pas possible. Il peut le dire, mais il le vivra pas, puisqu'il niera du coup les aspects fondamentaux ici de sa foi. Donc quand un groupe ici rejette cela, il annonce un autre Jésus, et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous ne faisons pas d'unité de choses avec des groupes comme les Témoins de Jéhovah, ou les Mormons. Pourquoi? Parce que les Témoins de Jéhovah ne reconnaissent pas Jésus comme le Christ. Ils ne font pas partie de la famille du christianisme. Ils sont l'équivalent, pour moi, c'est l'équivalent comme des musulmans ou autres. Pas parce qu'ils parlent de Dieu que du coup il y a un côté chrétien. Quand tu nies la divinité de Jésus, tout tombe, le salut, tout tombe. Plus rien ne tient. Alors pourquoi nous faisons une différence avec les catholiques? Vous pourrez me dire, mais du coup les catholiques, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas. Parce que l'Église catholique confesse historiquement les grandes doctrines que je viens de citer. Elle confesse la Trinité, la divinité de Jésus, sa mort et sa résurrection, et qu'il est le seul chemin vers Dieu. Ça, elle le confesse. Mais on croit aussi, et nous croyons aussi, qu'il y a plusieurs doctrines et pratiques catholiques qui obscurcissent sérieusement l'évangile de la grâce. Et le problème du catholicisme, mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement qu'il affirme sur Jésus, ce qu'il affirme sur Jésus, mais aussi qu'il l'ajoute. En fait, c'est un peu le défi ici, c'est un peu la problématique. Le catholicisme, l'institution catholique a rajouté. Alors dans ces rajouts, après on peut toujours en parler, il y a la place de Marie en tant que personnage particulier, il y a la place des saints, le purgatoire, l'autorité du pape, bref, beaucoup de points qui posent problème. Et pourtant, c'est là la nuance, nous croyons qu'il peut y avoir au sein du catholicisme des hommes et des femmes qui aiment sincèrement Jésus-Christ. Parce que là, ce que je viens de parler, c'est de l'institution. Mais mes frères et sœurs, Dieu ne sauve pas des institutions. Il sauve des personnes. Et l'institution, elle peut raconter des choses. Mais il y a des personnes qui peuvent ne pas suivre ce que l'institution dit. Comme chez nous, d'ailleurs. Parce que ce qui est valable chez les catholiques est aussi valable chez nous. Et peut-être ce matin, si vous devez retenir une chose, c'est peut-être cette phrase. Dieu ne sauve pas des institutions, il sauve des personnes. Bien souvent, nous sommes dans la crainte. Nous avons peur des catholiques parce que nous disons, mais eux, ils sont complètement loin de Dieu. Et ce qu'on dit, en fait, il y a une part de vérité. Mais en fait, on parle de l'institution. Est-ce qu'on a déjà parlé à des catholiques? Et vous verrez que chaque catholique est différent. Je prends un exemple. Un exemple vrai, c'est si je prends un catholique, c'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, hein, qui connaît rien du monde évangélique et du protestantisme, qu'est-ce qu'il va dire ? Vous, les évangéliques, vous tombez par terre, vous êtes comme Trump. Est-ce que ce qu'il va dire, c'est faux ? Non. Mais est-ce que ça veut dire que tous les évangéliques, ils sont comme ça ? Ben non. C'est la même chose. On peut parler des institutions, ça, on peut toujours parler, mais Dieu s'intéresse aux personnes. Et c'est faire ce cheminement, du coup, entre ce que l'institution va dire et les personnes. Nous devons, mes frères et sœurs, ce matin, faire la distinction entre l'institution et les personnes. Parce que Dieu fait cette distinction. Et mes frères et sœurs, Dieu seul connaît ceux qui lui appartiennent. C'est mon deuxième point. C'est le cœur du problème, quelque part. Qu'est-ce qui nous unit ? Je vous pose la question. Si Jésus revient demain, ce serait bien, c'est un lundi de Pentecôte, c'est parfait. Est-ce que à Saumur, il n'y aura que des chrétiens évangéliques de sauvés ? Vous dites tous non. Et pourtant, dans ce qu'on peut vivre, il y a des blocages. Du coup, si c'est non, c'est que c'est des frères et sœurs. Oui ou non ? On ne peut pas dire non si vous avez répondu non à l'autre. En fait, c'est cohérent. S'ils sont sauvés, c'est pas parce que Dieu il est gentil. Si on est sauvé, c'est parce qu'on a placé notre confiance en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et du coup, en partant de cela, déjà ce que vous avez dit, c'est bien, hein, parce qu'il fut, il y a quelques années en arrière, j'en ai parlé à Marc de Clausure, hein, c'est un pasteur, et il me disait que déjà, il y a quelques années en arrière, ici même, hein, ça pouvait être compliqué, c'est-à-dire que, mais il n'y a pas qu'à Saumur, je pense que c'est générationnel aussi, puis c'était aussi plus compliqué, il y avait plus de traumatisme aussi avec les catholiques. Et moi, j'ai entendu, je sais, plus jeune, certains dans nos églises qui disaient que tous les catholiques iront en enfer. C'est des phrases qu'on entendait, hein, chez nous. Ou voilà, on peut pas juger parce qu'il y a des peurs. Moi, je comprends les peurs. Mais quelque part, du coup, c'est se dire, c'est faire la distinction entre les personnes et l'institution. Bien sûr que non, il y aura des évangéliques, mais il y aura aussi des catholiques, des réformés, des orthodoxes. Le point commun avec tout cela, c'est quelque part, c'est pas l'étiquette qu'on met derrière. C'est leur vie de foi. Mais l'inverse est aussi vrai, mes frères et sœurs. Il y a des faux chrétiens partout, y compris sur les bancs de nos églises. C'est une prédication que je pourrais faire. D'ailleurs, c'est Jésus qui va dire. Quand je y reviendrai, il y aura des surprises. Un qui sera enlevé, assis à côté, et l'autre pas. Et quand il parle de ça, il ne parle pas des païens, il parle à des chrétiens, des disciples. En disant, vous pouvez être des disciples, vous pouvez dire Seigneur, Seigneur, mais à la fin, c'est moi qui saurai. C'est moi qui sais qui a vraiment donné sa vie à moi ou pas. Donc chez les catholiques, il y en a qui ne sont pas chrétiens. On ne peut pas non plus dire qu'ils sont tous chrétiens, c'est pas vrai. Mais comme chez nous aussi, pas parce qu'il y a de la belle musique et qu'on chante bien, qu'on est tous chrétiens, c'est pas vrai. Mais est-ce que notre rôle à nous, c'est de faire la police ? Mais non ! Notre rôle à nous, c'est d'aimer. C'est d'aimer et de proclamer quelque part ce que le Christ est. Ce n'est pas l'étiquette quelque part de notre Église qui nous sauve, c'est notre relation avec le Christ. Dans le Nouveau Testament, il y a un exemple assez frappant. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, c'est Paul qui va écrire aux chrétiens de Galates, l'église qui est en Galatie. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. Allez, je vais un peu expliquer. Du coup, Paul, il écrit aux Galates pourquoi ? Parce qu'il y a un sujet qui est très grave et qui se passe dans les églises en Galatie. C'est que certains enseignants affirmaient aux chrétiens dans les églises en Galatie qu'il fallait croire en Jésus, mais aussi pratiquer la circoncision pour être sauvé. Et du coup, les chrétiens, c'était souvent les païens, qui n'étaient pas circoncis, il leur disait clairement qu'ils n'étaient pas sauvés. Et Paul va réagir avec une extrême fermeté. Il va parler d'un autre évangile, c'est le terme qu'il emploie. Ces personnes prêchent un autre évangile. Il va dire aux Galaties, vous êtes trompés par des sornettes. Il va les reprendre. Pourquoi ? Parce que ajouter quoi que ce soit à la grâce du Christ, c'est une erreur fondamentale. C'est la foi seule qui sauve. Pourtant, Paul ne va pas abandonner ses églises. Il va leur écrire, il les appelle encore frères. Quand il écrit au l'Épître aux Galates, vous lirez, hein, chapitre 1, il écrit aux églises de la Galatie. Il pourrait dire, ah bah eux, c'est plus des chrétiens. Le salut, c'est plus du tout ça. Ils prêchent le salut avec les œuvres, c'est n'importe quoi. Donc je vais leur dire, vous n'êtes plus chrétiens. Paul, il aurait pu, hein, il n'avait pas ça dans sa poche. Hein, donc. Mais il va faire ce pas. Pourquoi ? Parce que même s'il est dans l'institution en Galatie, certains prêchaient n'importe quoi, il sait qu'il écrit à des personnes. Et qu'il ne peut pas mettre du coup tous les chrétiens de Galate dans le lot. Que certains ont connu le Christ. Que certains ont du discernement. Que le Saint-Esprit donne la capacité à ces chrétiens de faire la part des choses. De les garder quelque part des faux docteurs. Et Paul va les chercher du coup à les ramener à la vérité. Et cela nous enseigne, mes frères et sœurs, qu'on peut dénoncer des erreurs doctrinales sérieuses sans pour autant condamner chaque individu qui se trouve piégé dans un système qui est imparfait. Il y a un théologien, je ne sais pas si vous connaissez, Alain Nisus, qui va dire ceci, le plus grand drame de nos églises chrétiennes, c'est les dénominations. Nous croyons que l'amour nous unit et pourtant nous sommes divisés. C'est le résultat, quelque part, de l'œuvre imparfaite qui est là et que Christ a commencé, mais les hommes sont là. Alors ici, voilà, je veux aussi être assez clair pour rassurer aussi chacun. Quand nous participons, du coup, à la prière pour l'unité des chrétiens, on participe à Saumur, à la prière pour l'unité des chrétiens, je trouve que c'est une bonne chose, la prière pour l'unité des chrétiens. Ou à une marche, comme dans bientôt, là, dans 2 semaines, une marche ensemble pour apprendre à se connaître, voir aussi les différences, ça va être le but. On ne fait pas de compromis. Il n'y a aucun compromis doctrinal et on ne signe aucun accord avec le culte de Marie ou des saints. On reste pleinement évangélique, attaché à la Bible et la Bible seule, le sola scriptura, et à la grâce seule qui sauve. Et j'ajoute une limite du coup claire, on ne peut pas faire non plus de culte ensemble, parce qu'il y a trop de différences. Et on ne fera jamais de culte ensemble. Mais entre ne jamais faire de culte ensemble et rien, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Même beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut se rencontrer, on peut échanger, on peut prier pour notre ville de Saumur, sans forcément mélanger nos façons de célébrer Dieu dans nos assemblées. Alors du coup, ça veut dire quoi ? Quelque part, c'est de chercher le plus petit commun dénominateur. Ce plus petit commun dénominateur, c'est qui ? C'est le Christ. Ce Christ que nous confessons, Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Et les catholiques, les réformés qui participent à ces groupes confessent le même Jésus. Et le but, du coup, ce n'est pas la fusion des cultes. Je vous le dis, mes frères, c'est pas du tout ça. Le but, c'est l'unité de relation pour briser les préjugés. Pourquoi ? Pourquoi faire ? On pourrait se poser la question, pourquoi faire ? Je me la suis posée. Pourquoi on perd notre temps quand même ? Et c'est mon dernier point, notre unité rend visible Christ dans le monde. Au verset 18, les chrétiens vont dire ceci à Pierre, « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » L'Église de Jérusalem, elle a une réaction qui est magnifique. Elle est dans la crainte, dans la peur au début, la méfiance, mais devant le témoignage de Pierre, qui a été conduit par l'Esprit, ils vont faire silence, ils basculent dans la louange. Ils disent, je ne sais pas ce que Dieu fait, mais il y a une âme qui a donné sa vie à Dieu. Elle est différente de nous, elle mange différemment de nous, elle pratique différemment de nous, mais l'essentiel y est. Et ils comprennent quelque part que l'œuvre de Dieu dépasse leurs barrières. Grâce à cette ouverture, l'Évangile est sorti de Jérusalem pour toucher le monde entier. Si Pierre était resté enfermé dans son exclusivisme, dans son côté exclusif, côté juif, l'Église serait restée un club privé juif. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Frères et sœurs, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, en France et dans le Saumurois, beaucoup ne connaissent plus le Seigneur. Même une culture chrétienne, il n'y a plus. Beaucoup ne comprennent plus rien, du coup, à ce que l'on peut croire. Et ce qu'ils voient, quelque part, c'est quoi? Ce qu'ils peuvent constater, bien souvent et parfois, malheureusement, c'est nos guerres de clochers. Entre catholiques, réformés, évangéliques, et on peut faire toute la liste des hic et des ist en dénomination, elle est longue, hein. Et un non-croyant qui ne connaît pas nos débats sur la Bible ou autre chose, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelque part comment nous nous traitons les uns les autres. Et quand le monde voit des chrétiens incapables de se parler, toujours dans la critique ou le mépris, ils ne se disent pas « Regardez comment ils sont fidèles doctrinalement ». Ils disent « Leur foi parle d'amour, mais leur amour, elle est vide ». Ils disent « Ils aiment, eux ». Ils aiment quoi? Ils n'arrivent même pas à s'aimer entre eux. C'est, tout à l'heure, Alice, elle en a parlé, on n'a pas discuté ensemble. C'est deux commandements. « Tu aimeras ton Dieu », tout le monde peut le dire. Mais il s'accomplit dans le deuxième « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce prochain, on ne le choisit pas. Il s'impose à nous. Dire aimer Dieu, tout le monde peut le dire. C'était un peu la leçon avec ma fille cette semaine, qui me parlait un peu dans le vide. Et concrètement, j'attendais des choses. Aimer, c'est facile de dire. Dieu attend le concret. Qu'est-ce que je fais quand je dis j'aime? Est-ce que je fais la démarche d'aller vers ceux qui sont différents ou pas? Jésus va prier ceci, c'est dans Jean, qu'il soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Parce que le monde a besoin de concret. Si nous n'avons pas assez d'amour pour dialoguer avec des personnes qui confessent sincèrement Jésus-Christ, malgré plein de choses où on n'est pas d'accord, comment nous pourrons, mes frères et sœurs, avoir le courage d'annoncer l'évangile à ceux qui ne croient en rien? On ne pourra pas. Alors si, on peut. On peut, mais ça, ce n'est pas d'évangélisation. Ça, c'est faire du clonage. C'est vouloir imposer aux autres ce que je suis. Et bien souvent, on le fait de manière inconsciente, même moi. Alors, de moins en moins. Maintenant que je fais le pas, là, de moins en moins. Et bien souvent, on veut dire, on veut parler de Jésus. En fait, on ne veut pas parler de Jésus. On veut que les autres viennent dans notre club. Ce que Dieu nous appelle, c'est d'aimer. Et c'est lui qui touche le cœur. C'est lui qui agit dans les cœurs. Mais aimer, c'est compliqué, aimer, hein. Parce que aimer, ça demande du temps, ça demande du courage, ça demande aussi de savoir qu'est-ce qu'on croit. Et c'est bien aussi pour vous, mes frères et sœurs, parce que si vous avez peur, peut-être, d'aller vers les catholiques, le problème, du coup, c'est peut-être pas forcément les catholiques. C'est peut-être, du coup, que vous n'êtes pas assez solide dans vos baskets. Et c'est pas un problème. Si vous n'êtes pas assez solide, vous venez me voir. Il y a des études bibliques qu'on a commencées, hein. C'est fait pour ça. Pour savoir qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous croyez pas. Parce que du coup, si c'est compliqué avec les catholiques, moi je m'inquiète encore plus pour vous, parce que dans le monde actuel, on passe 2 heures le dimanche matin, hein, dans le reste vous êtes au travail, vous baignez dans le monde. Mais du coup, si vous ne savez pas qu'est-ce que vous croyez, ben, c'est le monde qui vous influence, alors, indirectement, sans que vous vous rendez compte. À nous, mes frères et sœurs ici, de savoir ce que l'on croit, mais surtout pour pouvoir aimer. Aimer ceux qui sont ici nos cousins, nos frères et sœurs. Tous ne le sont pas, mais certains le sont. Jésus ne nous appelle pas non plus à abandonner la vérité, mais à refléter son amour, même dans nos désaccords. Parfois, c'est simplement marcher ensemble dans la rue, apprendre à se connaître malgré nos différences, faire le pas quelque part. Pour conclure, je vais terminer avec cette histoire, c'est un témoignage personnel que j'aimerais partager avec vous. Dans l'église où j'étais avant, juste avant Saumur, à Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne, voilà, on était 4 pasteurs, et avec l'équipe pastorale, on avait essayé de connecter avec la paroisse catholique, qui était juste à côté. Et ils ont envoyé qui au charbon? Ils ont envoyé moi. Voilà. Ils disent, bon, David, toi, t'as fait vos sur scène, allez, vas-y. J'y suis allé. Et on a échangé, on a discuté. Et au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que ça servait à rien. Pourquoi ça servait à rien? Parce que le prêtre que j'avais en face de moi, il ne bougeait en rien sur sa ligne de conduite. C'est-à-dire que quand je discutais avec lui, ou même quand, alors c'est la seule fois qu'il l'a fait, parce qu'après du coup je ne l'ai pas revu, la seule fois où on a prié ensemble, il a prié Marie devant moi. Plus un autre saint, je ne sais plus c'était qui. Et d'ailleurs je me rappelle, je me suis levé et je suis parti. Parce que ce n'était pas possible. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui commence à rentrer dans une dérive. Et du coup, à l'église de Saint-Germain-en-Laye, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Est-ce que c'était mauvais? Non, c'était très bien. Il ne s'agit pas de se mettre avec n'importe qui. Mais ce qu'on a bien fait, c'est que dans la démarche, on a fait le pas. Se dire, est-ce qu'on peut vivre quelque chose ensemble? Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, allez, ça m'a formé, je vais faire pareil ici. Je vais aller voir, du coup, les responsables catholiques. Il y avait la pasteur Laura aussi réformée. Et on va essayer de voir. Si c'est possible, qu'est-ce qui est possible? Et j'ai bien aimé parce que les deux prêtres, responsables un peu de tous les curés, hein, le père Laurent et le père Emmanuel, ils m'ont dit cette phrase que j'ai trouvée très précieuse. Nous aussi, on veut prendre le temps. On ne veut pas faire n'importe quoi. Des petits pas et des petits pas. Et on voit si c'est possible. Parce qu'au-delà des institutions, c'est les personnes. Est-ce que David, est-ce que nous, on est capable ici de créer quelque chose. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas prié, hein. On a mangé ensemble. Parce que la bouffe, ça réunit tout le monde. Et depuis 5 ans. 5 ans, petit à petit. À l'église, j'en ai parlé à personne. Je n'allais pas commencer à vous dire, allez, venez avec moi, alors je ne savais même pas eux qu'est-ce qu'ils étaient. J'ai fait la démarche. Et du coup, il y a maintenant 1 an à peu près, où je me suis dit, c'est un très bon groupe qu'on a. C'est sécurisé, on va dire. Ils sont différents, il y a des différences. Mais l'essentiel y est. Le père Laurent, c'est un chrétien. C'est un vrai chrétien. Des fois, même avec lui, j'ai plus de contact, on va dire, même spirituellement, que des fois avec certains chrétiens. Et comment ça s'est fait? Parce qu'on a pris le temps de se connaître. Pourtant, il y a des choses où on n'est pas d'accord. Mais dans la foi ultime, tout y est. Comment ça s'est fait? Alors j'ai fait une gaffe avec le père Laurent, puisqu'il y a 3 ans de cela, voilà, on mangeait du coup c'est au centre La Rochefoucauld, donc c'est pas, je ne sais pas si vous voyez c'est où, face Binange. Donc voilà, quand j'arrive, du coup je suis tout seul, hein. Je suis en terrain ennemi quelque part, parce qu'il y a tous les prêtres qui sont là, mais eux ils sont dans l'échange, ils veulent discuter, donc c'est très bien. Donc, et puis à un moment, ça faisait déjà 3 ans hein, qu'on discutait. Le père Laurent, il me dit « Allez David, on va prier. » Et là, je me suis rappelé de ce qui s'était passé à Saint-Germain-en-Laye. Et donc j'ai dit à père Laurent « Écoute, c'était très bien, là, on a bien mangé, on va pas commencer à faire des histoires. Là. Parce que si tu vas prier, tu vas prier Marie, tu vas prier les saints, moi ça va m'énerver, je vais partir. C'est ce qui va se passer. » Du coup, on a bien mangé, on retourne chez nous. Je sais pas si vous voyez c'est qui le père Laurent. Quelqu'un de très calme, très posé. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, ça m'a surpris qu'il se mette en colère. Il m'a dit, David, tu me juges. Tu prends mon institution et tu la colles sur moi. Est-ce que tu m'as posé la question, est-ce que je prie Marie ou pas? Tu sais même pas. Et tu viens me poser un jugement sur ma vie. Et c'est lui qui m'a dit, si je fais pareil avec toi, je pourrais dire, toi, t'es comme Trump. Toi, je sais pas ce que tu fais, mais t'es comme les évangiles qu'on voit à la télé, qui font n'importe quoi, qui te tournent les fonds. Ouais, moi aussi, je peux dire, je peux parler. Mes frères et sœurs, ça m'a piqué. Au fond de mon cœur, j'ai vu ce que Dieu fait. Alors, j'ai pas prié tout de suite avec lui. J'ai dit, je vais prendre le temps. Je vais rentrer chez moi et je vais prier. Je suis rentré chez moi. Bon, au fond de moi, ça a brûlé. Je savais ce que Dieu attendait. Et dès le lendemain, j'ai appelé Laurent. J'ai dit, on va prier. On va prier. Et on a prié. Et ça a été le déclic. Quelque part, pour pouvoir avancer ensemble, tout en posant des cadres. Il y a des choses qu'on ne fera pas avec eux, mais il y a des choses qu'on peut faire. Et ça, c'est unique. Hein. Moi, c'est la première fois que je vis ici, que je vis ça à Saumur. Peut-être qu'en l'église future où je serai, ce ne sera pas le cas. Mais on vit quelque chose, mes frères et sœurs, d'unique ici. Et c'est à nous, quelque part, de pouvoir se dire, je peux saisir cette opportunité que le Saint-Esprit, on parle de frères et sœurs ici, nous donne pour pouvoir grandir en maturité. Le but, pourquoi? C'est pas juste de se voir les catholiques et de manger ensemble. C'est de pouvoir remplir la mission que Dieu nous a donnée, parler du Seigneur. Si on n'est pas capable de parler avec les catholiques, mes frères et sœurs, je vous le dis, hein, moi c'est ma conviction la plus forte. On ne pourra pas parler. Vous ne pourrez pas venir me dire, moi je veux évangéliser le monde entier à soumettre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est n'importe quoi ça. Et ça commence du coup par faire des pas avec ceux qui déjà vivent à peu près la même chose que nous. Et avancer avec eux. Depuis un an, on a ouvert le groupe. Voilà, on est quelques-uns. Il y a Bruno, il y a Anita, il y a Lydiane, il y a Jean-Marie. Donc, je vais citer Jean-Marie. Bon, mon frère va m'excuser, mais je me rappelle Jean-Marie quand je lui ai dit de venir. Notre frère, il était très sur la réserve. Il m'a dit, David, moi, je suis pas trop chaud. Hein. Catholique, je sais ce que c'est. Donc, mais je vais venir. T'es mon pasteur, je viens. Il est venu, il suffit d'une fois. Hein. Et il m'a dit, mais c'est super, en fait. Parce qu'il a fait la connaissance de personnes, pas d'une institution, de personnes. Dans ce groupe, au début, il y avait de tout. Il n'y avait pas que des catholiques qui sont comme le Père Laurent, il y avait vraiment de tout. Mais au fur et à mesure, ça a filtré. Dieu a filtré. Ce qui fait que du coup, que ce soit chez les réformés, comme chez nous peut-être, ou comme chez les catholiques, du coup, ceux qui restent, c'est ceux qui ont soif du Seigneur, qui aiment Dieu de tout leur cœur. Et le but, en tout cas, le Père Laurent, c'était le but. C'était pourquoi ? C'était pour pouvoir être un témoin ici dans le Saumur. Le Père Laurent m'avait dit ceci. Vous, les évangéliques, vous avez une force, c'est la capacité à parler de Dieu. Nous, on a une force que vous n'avez pas, c'est le réseau. Vous, vous êtes catégorisés comme sectaires et compagnie. Nous, on n'a pas cette image-là. Mais vu qu'on est en relation, ensemble, on peut faire un. Aujourd'hui, à Saumur, avec la mairie, ça se passe super bien. Pourtant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 5 ans, je venais d'arriver, on avait fait une série d'évangélisation, il y avait le quart de CRS qui est arrivé. On démarrait de là, à Saumur. Évangélique, nous, on démarrait de ça. Et en créant quelque part du lien, ça a permis du coup aux autres de se dire, mais attendez, eux, ils arrivent à parler. On reste nous-mêmes, on arrive à parler. On arrive à s'aimer. Et le but de mes frères et sœurs, c'est pas de faire de l'évangélisation avec les catholiques. Hein. C'est pas de les convertir les catholiques, non. C'est de faire une unité chrétienne. De faire un avec ceux que Dieu, quelque part, à appeler aussi. Amen. Est-ce que ça va? Ben écoutez, merci Seigneur. C'est un message un peu délicat ce matin, mais qui me tenait quand même un peu à cœur, puisque ça rejoint aussi la vision de notre Église. Remplir le mandat de Jésus, être des témoins ici, dans le Saumur. Est-ce qu'on peut prier? Merci Seigneur encore mon Dieu pour ce dimanche de Pentecôte où mon Dieu tu as envoyé ton Saint-Esprit et merci mon Dieu pour ce cadeau parce que mon Dieu tu vois nos faiblesses, tu vois nos peurs, tu vois nos craintes, nos incapacités à peut-être avancer sur le chemin que tu veux, à avoir toute la bonne volonté du monde mais à ne pas arriver. Mon Dieu, nous ne voulons pas compter sur nos propres forces mais compter sur ton action. L'action de ton Saint-Esprit, Jésus, ton action dans nos vies. Pour pouvoir mettre de côté nos craintes, nos peurs et faire un pas. Plusieurs pas. Marcher, mon Dieu, avec les chrétiens dans ce Saumurois. Chrétiens, mon Dieu, que toi seul connais. Que toi seul as gravé, mon Dieu, leur nom dans ton livre de vie. Nous voulons, mon Dieu, vivre cette unité déjà ici-bas sur terre. Aide-nous, mon Dieu, à avoir du discernement. À ne pas, mon Dieu, accepter tout et n'importe quoi. Mais aussi, mon Dieu, à ne pas rester enfermé sur nous-mêmes, à être en capacité de pouvoir voir ton action dans la vie de quelqu'un peut-être de différent de nous. Donne-nous, mon Dieu, cet équilibre. À chacun de nous, mon Dieu, et ici à ton Église au Saumur, que nous formons pour que nous puissions, mon Dieu Jésus, remplir ce mandat que tu nous as donné, être tes témoins. Les témoins, mon Dieu, qui ne sont pas là comme les témoins de Jéhovah, la voir à tout prix, que nous puissions nous ressembler, mais que Jésus, quelque part, dans nos attitudes, dans nos comportements, mon Dieu, ceux qui ne te connaissent pas, puissent te voir au travers de nous. À travers, comme tu dis, mon Dieu, l'amour que nous portons les uns aux autres. Viens nous aider, Père, mon Dieu, la tâche est immense, parfois difficile. Mais nous croyons encore, mon Dieu, que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, de crainte, de timidité, mais un esprit qui va enlever, mon Dieu, les barrières pour les agrandir. Tu es ce Dieu, mon Dieu, qui est capable, mon Dieu, de franchir nos barrières. Viens au secours, mon Dieu, de nos faiblesses, de notre incrédulité peut-être. Et tu viens encore nous remplir pleinement, Jésus, de toi. Amen.